Nous avons un rendez-vous avec Léo Ferré. Je vous remercie, Léo Ferré, d'être venu avec nous. Aujourd'hui, peut-être est-ce l'âge, vous paraissez beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré. Disons que ce n'est peut-être plus le Léo Ferré que l'on a connu un certain temps, un peu écorché vif, un peu révolté.
Je pense pas. Non, je pense pas. La révolte, c'est pas forcément la révolte avec les coups de poing ou les mitraillettes.
Bon, je ne pensais pas forcément
à ça. Mais dans les mots, vous voulez dire.
La violence dans les mots.
Dans les mots, je crois que c'est une violence utile et c'est la seule qui compte pour moi. Maintenant, vous dites davantage serein. Je pense. L'âge, mettons que l'âge.
On peut dire que vous avez 60 ans maintenant.
Moi, j'ai 60, je vais avoir 61 ans le 24 août 1916, je suis né en 1916, 1977.
Ça donne un certain recul sur la vie quand même.
Non, je pense pas, vous savez, ça fait... Ce qui est intéressant dans le vieillissement, je dis souvent, c'est que les autres vieillissent en même temps que vous. Hein? J'ai vu une chanteuse l'autre soir, qui est une chanteuse formidable, qui chante très bien, et qui chante d'ailleurs toujours très bien. Je l'ai vue il y a 3-4 ans, c'est une fille qui était belle, qui est toujours belle, mais elle a pris sur la tête quelque chose de terrible et d'irréversible. Et alors je me suis dit, bon, évidemment, moi ça va être pareil, quoi, vous comprenez. Alors là, ça impressionne un peu peut-être, si, mais le vieillissement, c'est dans la tête, et évidemment, il ne faut pas, quoi. C'est le seul problème. Non, quant à la sérénité, vous savez, moi je suis très heureux depuis 1968, et je suis dans la vie, je suis vraiment heureux. Des fois, j'ai peut-être des problèmes de solitude, métaphysique, mettons, mais enfin ça, c'est la solitude de l'artiste, et ça ne regarde personne. Enfin, des fois, ça m'entame un peu, quoi.
Non, ce n'est pas le vieillissement, mais disons que c'est le changement quand même de l'attitude, de la réflexion, du jugement que l'on peut avoir.
Oui, et puis le changement de pays, si j'habite en Italie depuis 8 ans, et ça y a fait beaucoup, ça aussi, d'être... C'est Melville qui me disait, un artiste, quand il le peut souvent, puisque quand il réussit à vivre de ce qu'il fait, il peut s'exiler, n'est-ce pas, d'une façon volontaire dans un pays, et ça, c'est très bien, je trouve. C'est un artiste, lorsqu'il a réussi, entre guillemets, c'est-à-dire lorsqu'il vit, et comme je me répète, mais ça c'est important de ce qu'il fait, il a une chance extraordinaire, quoi, évidemment. Les gens sont obligés d'être dans la ville, dans la cité, parce que sinon ils ne peuvent pas vivre, s'ils vivent avec les autres, forcément.
Vous aussi, mais vous avez quand même une sorte de liberté.
Ah, moi, je n'ai jamais eu de patron de ma vie, jamais. Mon père, oui. Enfin, ce n'était pas un patron.
Quoi. Disons que vous avez l'autorité. Vous avez le public, vous avez la nécessité de vivre, vous avez votre éditeur de musique.
L'éditeur de musique, j'en ai plus. J'en ai un que je traînais dans ma musique depuis pendant longtemps, et puis maintenant c'est terminé. Non, je pense que. Vraiment, l'artiste est un personnage privilégié.
Pourquoi êtes-vous replié en Italie ?
Parce que j'aime beaucoup l'Italie, parce que ça favorise pour moi une sorte de... Et puis j'aimais plus beaucoup vivre en France. Ça s'explique pas tellement d'ailleurs, mais c'est comme ça, quoi. Et l'Italie, c'est un pays plein de gens passionnés, qui parlent beaucoup, plus que nous. C'est en général le défaut. On leur trouve, ils en ont d'autres, mais ils ont cette façon d'être avec vous. Un Italien dans la rue qui vous regarde, qui vous parle, qui vous demande quelque chose, est encore comment rencontrer un Français il y a 40 ans. Quoi. Maintenant, on ne rencontre plus de gens comme ça en France. Les gens sont davantage immatriculés. Là-bas, c'est les guettes, mais enfin, ce n'est pas encore arrivé.
Ces 10 dernières années ont marqué beaucoup pour vous ?
Oui, beaucoup, parce que je vous dis, depuis 68, je suis un homme libre.
C'est surtout la conquête de la liberté.
La conquête de la liberté, parce que j'étais emprisonné par une femme pendant 18 ans. Quoi. C'est simple, mais ça arrive. Quoi.
Une de vos plus belles chansons qui, précisément, avec le temps, marque toute l'évolution qui peut se produire au cours d'une vie, et c'est vous-même, ça.
Oui, et puis je pense que c'est un peu la chanson de tout le monde. Hein.
Vous l'avez faite rapidement ?
Oui, 2 heures.
En 2 heures
de temps. Oui, comme un besoin de faire quelque chose. Et je crois que je disais c'est la chanson de tout le monde, parce que heureusement qu'avec le temps... Tout va mieux, parce que sinon, c'est un lieu commun aussi.
Vous regrettez beaucoup d'heures perdues ?
Non. En définitive, j'ai perdu des heures beaucoup quand j'étais jeune. Quand j'ai fait de la musique en me cachant, parce que personne ne m'aidait. Puis, dans ma famille, on était très gentils, mais j'étais un personnage. Puis, ils se demandaient qui j'étais, en définitive, vous comprenez ? Et quand j'étais un fantaisiste, ma mère, qui était gentille, m'appelait poète quand j'étais jeune, mais poète, comme ça, avec une petite moquerie affectueuse, vous voyez. Et ça, c'était dur. Alors, j'ai essayé essayé de me cacher et j'ai essayé, étant donné que je ne savais pas si je devais faire ça, que je vais faire de la musique. Bon, on me dit tellement que ça marche pas. Mon père m'a dit, celui comme un jour, la musique ne nourrit pas son homme, à quoi j'ai répondu, mais non, je lui ai dit, trouvant une qui m'en nourrisse, qui me nourrisse. Mais vous savez, monsieur, si vous saviez combien j'ai nourri de gens depuis que je fais de la musique, avec ma musique.
Ce qui prouve que la musique, quand même, nourrit son homme de temps en temps. Votre enfance, vous l'avez complètement oubliée ? On ne l'oublie jamais ?
On n'oublie pas, non, mais je ne reviens pas. Parce que s'attarder, regarder derrière, c'est revenir, c'est s'avieillir, je crois. Il faut penser à demain matin, quoi. Donc en pensant demain matin, on pense à ce qu'on va faire, et peut-être à mourir aussi, parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas prévoir, qui peut nous arriver d'un moment à l'autre.
Vous avez un fils, Mathieu, dont vous parlez beaucoup. Oui. Longtemps, vous n'en avez pas parlé, mais maintenant, vous en parlez beaucoup.
J'étais obligé de le cacher pendant 3 ans, parce que j'étais marié, et il ne fallait pas que ça sache, parce que, vous savez, les juges sont du Moyen-Âge aussi, encore en France aujourd'hui, les juges, et ils protègent la femme bourgeoise, ils ne protègent pas la femme malheureuse, la femme pauvre. Et alors, il fallait que je cache cet enfant pour le bien de cet enfant et de la femme avec qui je vis maintenant. Et je me suis vengé en février 74, lorsque j'avais divorcé, donc je pouvais dire que j'avais un enfant. Alors je l'ai montré, et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis sur la pochette de mon disque qui s'appelle L'Espoir. Et je sortais de l'Opéra Comique un dimanche, je suis passé rue du Faubourg Saint-Honoré, et j'ai vu dans un disquaire qui devait m'aimer, qui avait rempli toute sa vitrine avec mon fils.
Quelle enfance allez-vous lui donner ? Il ne sera pas malheureux, mais il ne sera pas non plus solitaire.
Non, vous savez, alors là, je pense que je ne me mêle pas de ses affaires. Je lui ai dit, lorsqu'il avait 3 ans, maintenant je peux lui parler plus facilement, parce qu'il a 6 ans et demi, je lui ai dit, moi je rentrerai jamais dans tes coups, mais ne rentre pas dans les miens. C'est-à-dire que lorsqu'il vient, j'ai un petit orgue électrique à la maison, et de temps en temps, lui et ma fille viennent l'ouvrir, et bien sûr, quand je travaille, ça me dérange. Alors, il vient pas. Voyez-vous, il rentre pas dans mon jardin, je ne rentre pas dans le sien. Je pense que c'est la moindre des choses.
On vous a longtemps donné l'étiquette de gauchiste, Léo Ferré.
Non, je ne suis pas gauchiste.
Cette étiquette, vous la refusez ?
Ah oui, moi, gauchiste, non, pas du tout. Non, les gauchistes sont des gens en définitive, qui attendent et qui ne savent pas qu'ils sont à droite, n'est-ce pas ? Dans la mesure où ça veut dire quelque chose d'être à droite aussi, on ne sait plus quoi. Hein. La droite, la gauche, le centre, l'impression importante, c'est de ne pas se mêler, d'être la cellule, quoi. Comme disent les anarchistes, ils ont raison. C'est l'extrême solitude, et puis c'est l'amour. Vous savez, avec l'amour, on arrangerait bien des choses, même dans les bureaux de vote. D'ailleurs, il ne faut pas voter, chacun le sait. Les gens votent, c'est comme ça. C'est la Cadillac du peuple. Alors, on les fait monter de temps en temps dans la Cadillac, et puis ils en descendent vite. Voilà.
Où en est votre violence, la violence de vos mots, je veux dire ?
Ben vous savez, je ne sais pas, je ne fais jamais exprès d'être violent. Ça, j'écris comme je le pense. Et ça ennuie les gens, parce que les gens mal informés, en définitive. Vous savez, on dit des gros mots. Tout le monde dit des gros mots à la maison, chez soi. Ces mots tabous, ces mots extraordinaires, quoi, parce qu'ils règlent toute la vie. Et si on les dit à la radio, à la télévision, là, ça ne marche plus, je ne sais pas pourquoi. On vit encore au Moyen-Âge. On a les pieds dans le 22e siècle avec la science. Et on a l'âme, la morale, et la morale politique au 17e siècle. Alors ça, il y a quelque chose qui ne va pas.
Ça entraîne une peur des mots ?
Sûrement une peur des mots, et puis en plus les mots sont usés, il faudrait vraiment changer de mots, quoi. Et c'est pas possible.
Vous devez essayer en tout cas de les pétrir, sinon de les changer, et vous publiez en ce moment d'ailleurs des recueils de poésie que on ne connaissait pas, c'est le 2e volume, je crois que vous êtes en train de...
Non, ça on le connaît, seulement vous savez, la poésie c'est un truc de maniaque, ça a été édité en 56 à la Table Ronde, et aujourd'hui ça a été repris dans une collection de poches, qui est bien distribuée, et... Et moi, je suis très content parce que c'est un livre qui coûte 6,50 francs, et puis les livres ne doivent pas être chers. Et actuellement, les livres sont chers.
Il est à la portée de tout le monde.
Oui.
Vous êtes quand même fier de publier ces poèmes, parce qu'avant tout, vous êtes un poète. Mais vous avez écrit quelques phrases très, très dures sur la poésie actuelle. Je relève cette phrase, par exemple. La poésie ne chante plus, elle rampe. C'est dur pour les poètes.
Je ne sais pas. Quel poète, vous comprenez? Moi, je sais pas. Il y a des gens qui disent poète, il y a des gens qui disent parolier, tout ça. Au fond, définitivement, le titre, on ne peut pas dire. Qu'est-ce que vous êtes? Moi, c'est, quand je suis avec un maçon, j'ai des problèmes de maçon avec lui. Et je trouve que c'est honnête de ma part. Quand je suis dans un. Ça vous est arrivé, ça arrive tous les jours à Paris. Quand je suis dans un taxi, je parle de préférence au chauffeur de taxi de ses problèmes à lui, parce que d'abord, ça lui fait plaisir, et puis ça risque, dans une certaine mesure, de m'intéresser. Alors, les gens, quand ils me parlent, ils me parlent pas de mes problèmes, parce qu'ils ne les connaissent pas. Et puis, bon, la poésie, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, moi, c'est ces lunettes placées d'une certaine façon dans mon lit. Si j'ai un être aimé qui vient me voir. Et pour lire dans ses yeux, parce que je n'y vois pas très bien, même dans les yeux des gens. Ou alors, quand je suis seul, c'est pour essayer de peut-être de lire en moi-même ce que je ne fais jamais, parce que c'est pas tellement intéressant.
Mais la poésie, c'est aussi la restitution de la valeur, de l'éclat d'un mot, de sa force.
Je sais pas, je pense pas qu'on puisse définir la poésie. Vous savez, la poésie, c'est... Le poète, c'est un type, c'est un fou admis, quoi. Tout juste.
En tout cas, pour vous, c'est une façon aussi de... juger notre siècle, notre époque. Et oui, parfois, c'est souvent un rejet. C'est un cri.
D'accord. Alors moi, je ne me permets pas, je ne me suis jamais permis de juger quoi que ce soit. Vous comprenez? Seulement, j'ai une place que j'ai, bon, j'ai attendu longtemps, parce que pour faire ce métier, il faut savoir attendre. Et on attend au long des années sans se rendre compte qu'on attend, d'ailleurs, parce que sinon, ce ne serait pas possible. Je pense que une tribune, eh bien, à certains moments, il faut que je serve à quelque chose. Sinon, c'est pour ça que je dis que la poésie est hermétique, ça sert à rien, vous comprenez? Et puis, ça cache le manque de talent. Vous comprenez? Au XXe siècle, il y a un poète, c'est Apollinaire. Je dis toujours, nommez-moi un autre. Personne n'arrive à trouver. Il y a cinq musiciens au XIXe siècle. Je sais pas, cinq musiciens du XIXe siècle. Alors, je disais l'autre jour, je cherchais Beethoven, Brahms, Berlioz, et puis Schumann, et puis Debussy, c'est le 20e déjà. Au 20e, il y a Debussy, Ravel, Bartok, Stravinsky, Berg. Et pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, qu'il y ait 15 000 musiciens de musique dite contemporaine qui aient du talent? C'est possible, vous comprenez? Et les artistes sont des gens. C'est une maladie de la progression, je pense. C'est pour ça que c'est rare. C'est une maladie très rare, très rare. Et une maladie dont on guérit, dont on ne guérit jamais.
Probablement, mais c'est une bonne maladie de tous ces 15 000 musiciens. Je crois que vous exagérez un peu, il n'y en a pas trop que ça.
Oui, façon de parler.
Mais enfin, il en restera quand même quelques-uns, probablement. Mais tout le monde s'y essaye, pourquoi pas?
Oui, tout le monde s'essaye, mais enfin, ils engorgent la situation, puis on les aide, c'est embêtant. Voilà, vous savez, au 19e siècle, il y a 4 musiciens, quoi. Je viens de vous le dire. Juste quand je dis j'étais grand, hein, les types, pourtant c'est bon, que c'est extraordinaire, on écoute, puis ça, on pleure, vous comprenez? Hein, l'art, c'est les larmes. C'est Baudelaire qui l'a dit, la beauté, c'est les larmes. Tout le reste, c'est du flonflon. Alors qu'il faut que ça se dise de temps en temps, quand même. On le dit jamais, ça.
Si on pénétrait un peu dans votre poésie, Léo Ferré, feuilletons un peu votre livre.
Si vous voulez, oui. Ça me fait bizarre ce que vous dites, frère.
Il y a un poème qui est, à mon avis, un des exemples de ce que je disais tout à l'heure, un cri, un rejet peut-être du monde. Ça s'appelle « Où va l'univers ?»
Oui. Je ne l'ai jamais dit ça, vous savez, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Où va cet univers dérivé comme un signe? Sur les temps désirés où nos âmes remorquent toute une exhalaison d'horaires et de signes. Il est 5 heures ici, et midi à New York. Non mais sans blague, Christ. Tu fuis de ton flanc triste sur ce monde impotent et sur ces potentats qui t'ont étiqueté d'étiquettes à touristes. Le plat du jour, c'est Christ, avec les bras en croix. Et tu crois que je crois? Non, mais crois-tu? L'indigne serait de t'apporter des pansements au flanc, qu'il coule au nom de Dieu ton sang comme la vigne. Et ton cru, qui lui crut? On y croira longtemps.
Très justement, vous avez dit que la poésie est une clameur. Je crois effectivement que c'est un peu cette musique, ce cri que vous cherchez.
Oui, et puis elle doit être entendue comme la musique. Hein. Parce que, vous savez, la chance de notre époque, c'est avec cette multiplication de l'œuvre musicale et poétique, avec la musique, elle va dans l'oreille des gens. Et les gens, même s'ils ne sont pas habilités... pour les comprendre tout de suite, parce qu'ils n'ont pas été à l'école longtemps, la musique les retient et ils reviennent. Là-dessus, moi, j'ai des tas d'exemples. à propos de poètes que j'ai mis en musique, que j'avais en 1956, cette œuvre extraordinaire du XIIe siècle et du XIIIe siècle plutôt, qui s'appelle, que j'ai appelé Pauvre de Bœuf, pour mettre le nom de ce grand poète dans le titre, pour bien marquer que moi j'étais humblement le musicien, et un jour je faisais mes commissions à Neuilly, j'allais acheter mon journal, j'achetais mon pain, et en 57, un routier qui s'arrête, qui me dit « Alors Léo, quand est-ce que tu nous chantes le pauvre bœuf à la télévision ?» C'était merveilleux, je me suis bien gardé de rectifier, je me suis dit « Un jour il saura que c'est pas le pauvre bœuf, il saura que c'est pauvre de bœuf, il saura que Rudebeuf était un poète du XIIIe siècle. »
Il avait retenu, effectivement, c'était le son. Enfin, c'était
c'est ça, oui, il avait retenu. C'était... Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y avait la musique. Sinon, j'avais entendu un poète dire que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu, tant aimé.
Ça passait moins bien.
Ça passait pas du tout.
Même pas du tout.
Parce que comme ça, comme une parole. Et la musique apporte, la musique, c'est un véhicule. C'est une maquerelle extraordinaire. Voilà. C'est encore un mouilleur, oui.
C'est une leçon de modestie. Vous avez un autre poème, d'ailleurs, à propos du poète. Ça s'appelle Poète...
Oui. Il souffle dans sa veine un vent de chlorophylle. Là, je prends de l'accent, je m'excuse parce que. Un prétend vigoureux qui pétale d'idées, sa bouche en corolle est une fleur de style qui se fane en baisant la pâle renommée. Il germe dans sa couche une plante insensible qui s'étanche à son crâne, ainsi qu'au robinet. C'est l'arbre de raison qui grille ses fusibles et qui lui donne envie d'aller tout dégueuler. Le poète a sa croix, comme chacun le pense, d'abord celle d'aimer, et puis celle de la pensée. Il arrive parfois qu'il puisse conjuguer, mais l'inquiétude alors lui mange la genèse, lui ronge la syntaxe et lui prend l'alphabet. Il se meurt doucement d'Académie française.
Ça illustre en tout cas le travail que vous essayez de remettre sur votre métier. Vous écrivez vos poèmes avant vos chansons, vous écrivez les mélodies sur lesquelles vous mettez les poèmes.
Moi, quand je mets des poètes en musique, je mets toujours évidemment la musique avant. Et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il faut que ça devienne, il faut que ça soit instantané. Pour les commodités du langage, mettons, il faut que ce soit l'inspiration. Alors que l'inspiration, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bien définir. Et sinon, ça dépend des moments. Des fois, je fais tout en même temps, ou bien. C'est plus difficile de mettre des paroles sur la musique, bien sûr, parce que on est pris par un cadre établi. Donc,
c'est-à-dire que toutes vos chansons sont d'abord un poème?
Non. Des fois, il y a eu de la musique faite avant, vous savez. Ça dépend.
Vous en avez un dans ce recueil-là, qui s'appelle « Madame la misère », qui est une chanson que nous connaissons, mais qui a été écrite bien avant en tant que poème.
Mais vous savez, alors c'est un cas extraordinaire. Quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit en 52-53, puis j'ai trouvé cet éditeur en 56, à la table ronde, et il n'était pas question, donc moi je n'avais jamais pensé de pouvoir mettre ça en musique un jour, et ça n'est qu'en 68. Et vous savez pourquoi j'ai mis de la musique en 68? C'est parce que j'ai trouvé un public qui est susceptible de comprendre ça. Donc j'ai été poussé malgré moi à mettre certaines de ces poésies en musique. Madame la misère, écoutez le vacarme que font vos gens, le dos voûté, la langue au pain. Quand ils sont assoiffés, ils se saoulent de larmes. Quand ils ne pleurent plus, ils crèvent sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des suppliciés au ventre translucide qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois, régler son compte à Monseigneur éphéméride qui a pris leur jeunesse et l'a mise en ses rides quand il ne leur restait que ça.
Actuellement, Léo Ferré, vous travaillez, je suppose, vous continuez à travailler, car vous n'avez pas arrêté, bien qu'étant en Italie, comme nous le disions tout à l'heure, sur... Quoi travaillez-vous? Sur des thèmes tout à fait différents?
Non, vous savez, mon grand truc, c'est que je réalise, comme on dit bêtement, un rêve d'enfance, et j'ai la chance de pouvoir le faire, quoique ce soit pas facile à le faire. J'ai retourné l'orchestre symphonique, toujours placé selon la tradition, avec le chef d'orchestre qui vient, et qu'on va toujours de dos, n'est-ce pas? J'étais obligé de le faire parce que j'ai entrepris de chanter en m'accompagnant de l'orchestre, en dirigeant l'orchestre. Et en jouant aussi des œuvres de grands musiciens, notamment en ce moment je joue Beethoven et Ravel. Pour moi c'est la joie, c'est extraordinaire, c'est une grande toupie formidable, comme si j'étais un enfant, vous comprenez.
C'est-à-dire que vous chantez directement avec un orchestre?
Oui, alors ça pose des problèmes uniquement de subventions, non pas de subventions parce qu'on ne m'en donne pas bien sûr, et de production. Il y a des gens qui veulent travailler avec moi, ils sont obligés d'avoir des frais considérables parce que on est 140 sur la scène, vous comprenez. Avant j'étais seul, ça fait beaucoup quoi, vous comprenez. Alors c'est bien, mais c'est extraordinaire. Alors je donne ce concert sur la place du Palais du Prince à Monaco, parce que je suis monégasque, et puis sur la place Saint-Marc à Venise, parce que je suis à moitié italien.
C'est vrai, vous êtes monégasque. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas retourné à Monaco vivre?
Je suis français à Monaco.
Ah, vous êtes né à Monaco, mais vous êtes français.
Je suis français par mon père, et puis monégasque, parce que ma mère est née à Monaco et était monégasque. Alors je suis monégasque.
Et alors, cette formule, j'allais dire, de grand spectacle, non, quand même pas.
C'est un spectacle, les gens qui voient ça, vous savez, moi, j'ai amené au Palais des Congrès, vous donnez ce spectacle pendant un mois, des gens qui n'avaient jamais entendu Ravel ni Beethoven, tu sais, et qui venaient poser des questions, d'ailleurs, un peu inattendues. Et on voyait qu'ils ne connaissaient pas la musique. Et il y avait un silence religieux. Et j'essaie, avec beaucoup de difficultés, de mettre la musique dans la rue. Et c'est difficile.
C'est une toute autre formule que celle du poète de la solitude que vous étiez.
Oui, remarquez que l'artiste, il est seul dans sa tête, vous savez, en définitive. Et puis, il s'arrange toujours pour ne pas être seul chez lui. Les grands solitaires ne sont jamais seuls. Alors, il gueule contre la solitude, mais il se laisse bouffer des fois agréablement par les autres. Vous savez, le grand mot de Sartre qui restera de lui, quoi. C'est l'enfer, c'est les autres.
Pas facile d'être libre, hein?
Non, sûrement pas, non. Sûrement pas. C'est même très difficile. Vous savez, moi, je vois les gens qui ne sont pas libres. Je les vois. Vous n'êtes pas libre. Personne n'est libre. Le monsieur qui est derrière son bouton là-bas, il n'est pas libre. Il n'est pas libre de partir maintenant.
Non, il ne peut
c'est,
pas.
C'est son boulot, parce qu'il est honnête. S'il veut partir, on le fout dehors. Moi, si je veux partir, je m'en vais.
Avant de partir, Léo Ferré, est-ce que vous avez une des dernières chansons à nous présenter, une de vos dernières chansons?
Le dernier disque, ça s'appelle, il s'appelle Je te donne, c'est une chanson que j'ai écrite pour une femme qui est ma femme et qui peut être, et que les gens peuvent penser écrite pour leur femme, quoi. Ça s'appelle Je te
pour
donne.
Pour l'universel.
Oui.
Car c'est l'art du poète, c'est d'écrire en solitaire, dans la solitude, mais de faire penser tout le monde.
Et puis l'amour, c'est donné, vous savez. Parce que les gens, ils vous prennent toujours. Et puis le jour où vous ne leur donnez plus, ils se sont imaginés. En bonne foi, d'ailleurs, je ne sais pas que selon comment ça marche dans leur tête, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand vous aimez, on dit, alors je t'aime, et puis ils te prennent. Le jour où tu ne donnes plus, ils te disent, merde, salaud, il ne donne plus rien. Alors que je lui ai tant donné, se disent-ils. Vous comprenez? Et puis c'est pas vrai, c'est une question à mettre au point, ça. Et ce serait bien en politique, ça seulement, c'est dans 10 000 ans.
On commence à compter.
Dans 10 000 ans, ce serait bien. Dans 10 000 ans, on sera bien, ça. Oui. Je reviendrai, moi, 10 000 ans.